perkeleen tontot!
Le vendredi, le métal fait son show sur Bike FM. Salut à tous, bienvenue dans l'émission Check Meload, votre émission métal qui, chaque semaine, eh bien, vous propose un petit tour de l'actu des sorties du moment. Et ce vendredi 13 septembre est assez riche. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on est le vendredi 13 et que ça inspire beaucoup nos amis métalleux. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent aujourd'hui. Donc, grosse programmation. Je vais d'ailleurs certainement pas tout vous proposer aujourd'hui en ce qui concerne le vendredi 13, puisque j'ai aussi quelques sorties des semaines précédentes. À vous présenter. Donc, grosse partie quand même d'albums qui sortent aujourd'hui, et puis une petite partie aussi de ce qui est sorti les semaines précédentes. Et bien sûr, en fin d'émission, vous retrouverez la rubrique Sortez Cover qui va nous balader entre les années 80 et les années 90 aujourd'hui. Alors, je m'excuse, j'ai un rhume d'enfer, donc j'ai eu recours un petit peu à la cortisone là pour essayer de faire une émission correcte. Donc, s'il y a des moments où ça patine un peu, on peut mettre ça sur le compte du rhume. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer parce que j'ai vraiment plein de choses à vous dire. Et on va d'ailleurs commencer les hostilités dès maintenant, puisque aujourd'hui, c'est la grosse sortie du jour, c'est l'arrivée du nouveau Korn. Korn qui sort aujourd'hui son 13e album, c'est donc normal qu'il arrive un 13 septembre, un vendredi 13 d'autant plus, nouvel album qui s'appelle The Nothing. Alors Korn c'est qui? Je pense que la plupart d'entre vous les connaissent, mais il y a peut-être des petits nouveaux qui commencent à écouter du métal et puis qui sont pas encore bien connaisseurs de la chose. Alors Korn c'est un groupe qui nous vient de Californie, d'une ville qui s'appelle Bakersfield. C'est un groupe qui naît en 93, des cendres d'un autre groupe qui s'appelait LAPD, et Korn ça naît sous l'impulsion du chanteur Jonathan Davis, de deux guitaristes qui s'appellent Ed et Monkey, d'un bassiste qui s'appelle Fieldy, et puis d'un batteur qui s'appelle David Silveria, qui ne fait plus partie du groupe puisqu'il a été remplacé en 2007 par Ray Luzier. Alors Korn c'est du new metal, hein. Je pense qu'il n'y a pas à tergiverser là-dessus. D'ailleurs, Korn, c'est un emblème de cette scène new metal, c'en est aussi un des fers de lance aux côtés de Limp Bizkit, de Deftones à l'époque. Sa musique, elle se caractérise par un son lourd, massif, où le métal s'entrechoque avec des influences qui viennent aussi bien du hip-hop que de l'électro. Et ça, c'est très très marqué dans la musique de Korn, mais en même temps, c'est une musique aussi assez mélancolique, assez torturée. Alors ça nous vient de Jonathan Davis, qui est très torturé. Il faut dire qu'il a eu une enfance vraiment pas facile. Et puis, il y a un petit événement dans sa vie d'ado qui va faire aussi que ça va pas arranger les choses. C'est qu'un de ses premiers jobs, ça va être de travailler chez les croque-morts. Donc ça va aussi pas mal le bouleverser, ce qui est normal. Alors, en 94, le jeune combo va dégainer un premier album éponyme qu'on peut considérer comme étant tout simplement un des premiers disques du mouvement nu metal. Mais c'est avec le suivant, qui s'appelle Life is Peachy, qui sort en 96, que Korn va réellement voir sa carrière décoller avant d'être définitivement consacré avec l'album Follow the Leader, qui lui arrive au beau milieu de l'été 98 et qui demeure à ce jour son plus gros succès commercial. Moi, je sais que je l'ai écouté jusqu'à l'user, le CD de Follow the Leader. Suite à ce troisième album, alors ça va se compliquer un petit peu pour le groupe qui va malgré tout connaître un dernier gros succès avec l'album Issue qui sort en 99. Et puis ensuite ils vont enchaîner sur une série d'albums qui est de qualité quand même très inégale, dont certains n'ont d'ailleurs pas laissé un souvenir impérissable. Finalement, malgré ses diverses tentatives, comme par exemple son incursion dans le dubstep en 2011, Korn va avoir bien du mal à convaincre de nouveau ses fans, et il faudra attendre 2016 avec la sortie de The Serenity of Suffering pour retrouver un petit peu le feu sacré qui avait fait sa renommée à la fin des années 90. Aujourd'hui, le combo de Bakersfield, je vous le disais, il sort son 13e album. Alors, est-ce que ça leur portera chance ou pas? C'est un petit peu tôt pour le dire, puisque je peux vous annoncer la couleur tout de suite, hein. Si The Nothing est un album quand même plutôt réussi, et comporte même quelques moments de prouesse, le disque il est quand même marqué aussi par quelques petites longueurs et quelques petites faiblesses qui peuvent assombrir un petit peu la chose, mais j'aimerais quand même qu'on se concentre plutôt sur les points forts de cet album qui a d'ailleurs une signification toute particulière pour Jonathan Davis, puisqu'il l'a composé suite au deuil l'an dernier de son ex-femme et mère de ses enfants. C'est donc un album presque introspectif qui s'apparente finalement à un concept album, puisque, alors ça en est un vraiment, ça respecte pas toutes les règles du concept album, mais tout au long du disque, Davis évoque l'équilibre constant entre la lumière et les ténèbres, la vie et la mort, le désespoir et la force de remonter la pente. Une thérapie en quelque sorte pour le chanteur qui s'est, accrochez-vous, eh bien inspiré d'un film culte des années 80 pour l'écrire cet album. Et ce film, c'est L'Histoire sans fin, qui est tiré d'un roman du même nom d'ailleurs, dans lequel eh bien le néant vient s'emparer du monde. Cet album, il a été produit comme son prédécesseur par Nick Rasculinet. Alors, bien évidemment, The Nothing va pas dépayser les fans du groupe, qui vont se délecter encore une fois des lignes de basse bien ravageuses, de guitares tranchantes, de ce fameux chant torturé, plaintif même parfois, de Jonathan Davis. Une recette qui a fait la renommée du groupe. Malheureusement, comme je l'évoquais, hein, sur la longueur, cette belle dynamique, il y a des moments où elle s'essouffle un petit peu. Mais bon, The Nothing, il contient quand même vraiment son lot d'excellents titres, dont certains vont faire fureur en live, ça c'est sûr, et je pense qu'il peut prétendre à figurer parmi les productions notables du combo sans problème. En voici d'ailleurs un extrait pour vous avec le titre Cold. Tout de suite, on écoute Korn sur Mac FM.
Say
Cold du groupe Korn, extrait de The Nothing, nouvel album du groupe, 13e album du groupe qui sort en ce vendredi 13. En ce moment, les groupes de nu metal sont plutôt en forme avec Slipknot de son côté qui cartonne depuis la sortie cet été de son nouvel album et Korn qui arrive. Alors pas sûr que Korn ait un succès aussi dithyrambique que celui de Slipknot parce que c'est pas pareil. Hein. Korn, c'est vrai que ça c'est un groupe, on attend toujours la sortie de l'album et puis à cause de production qui n'était pas très réussie, ben maintenant c'est difficile voilà de les retrouver vraiment au sommet. Donc on espère que les choses vont un petit peu changer avec cet album qui est très réussi quand même. Allez l'écouter, surtout si vous les avez aimés à la fin des années 90, au début des années 2000. On les retrouve quoi, et en même temps bah c'est plus mature, c'est normal, hein, c'était il y a 20 ans quand même. Donc nouveau Korn à découvrir depuis aujourd'hui. Et il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il y a des très bonnes choses qui sortent en ce vendredi 13, puisque en France aussi on a notre lot de bons albums. J'en ai deux à vous proposer aujourd'hui, alors dans des styles radicalement différents. Le premier, c'est le nouvel opus des Parisiens de Betraying the Martyrs, un album qui s'appelle Rapture. Alors Betraying the Martyrs, c'est un groupe qui existe depuis 11 ans, qui a été formé en 2008. Depuis, le line-up du groupe a quand même énormément évolué, et à leur actuel, il se compose de Aaron Matz au chant, de Baptiste Vigier et Steve Austin à la guitare, de Valentin Hausser à la basse, de Boris Legal à la batterie et de Victor Guillet au clavier. Betraying the Martyrs, c'est un groupe qu'on avait eu la chance de voir au Café Charbon il y a quelques années. Et bah leur style, c'est du metalcore, mais aux accents deathcore très prononcés, avec quelques éléments progressifs, et puis même un peu de symphonique, hein, parce que des fois, il y a des orchestrations qui sont quand même assez imposantes. Le jeune combo va se faire remarquer dès 2009 avec la sortie d'un premier EP qui s'appelle The Earth, The Divine, The Light. Et pourquoi il va se faire remarquer? Bien tout simplement parce que le mixage, il est signé par monsieur, le grand monsieur Stéphane Burrier. Deux ans plus tard, en 2011, Betraying the Martyr va sortir cette fois-ci un premier album qui s'intitule Breath the Life et qui, fait rare pour un groupe français, va bénéficier d'une distribution à échelle internationale. Le disque, il est d'ailleurs très très bien reçu par la critique européenne, qui n'hésite pas à l'époque à comparer Betraying the Martyr aux Britanniques de Asking Alexandria, avec lesquels ils vont partager par la suite une très belle tournée. Et donc, après avoir écumé pas mal de scènes européennes, et puis s'être forgé une très belle réputation bien au-delà de nos frontières, Betraying the Martyrs va donner naissance à son deuxième album, qui s'appelle Phantom, ça c'est en 2014, qui va recevoir par contre un accueil un petit peu plus mitigé de la part des médias, mais aussi des fans, qui vont reprocher au groupe d'avoir peut-être un peu trop aseptiser leur production. Alors des critiques que Betraying the Martyrs va prendre en considération pour son troisième album, qui s'appelle The Resilient, qui paraît en 2017, et qui va marquer un retour vers un son plus percutant, plus brutal, plus concis. C'est un album qui est très marqué par les attentats qui ont frappé la France en 2015, et The Resilient, c'est également un album qui est beaucoup plus mature, avec une émotion qui domine pour une bonne partie des morceaux, et cette fois, le disque va connaître un accueil extrêmement positif. Il va d'ailleurs être suivi d'une tournée mémorable. Mais c'était en 2017 ça, il était temps pour Betraying the Martyr d'ouvrir un nouveau chapitre avec Rapture, son quatrième album qui paraît aujourd'hui, et qui s'annonce d'ores et déjà comme une pièce majeure de sa discographie. Alors d'ailleurs, si le titre Rapture, qui signifie ravissement en français, fait référence à la Bible, et plus précisément au moment où Dieu vient tirer les âmes dignes vers le haut pour les sauver de l'apocalypse, faudra pas trop chercher la lumière dans ce nouvel opus qui est certainement la production la plus dark du combo, et qui tout simplement sur cet album-là se délecte de riffs bien lourds, d'atmosphères bien sombres, et avec pour seule percée lumineuse les claviers aériens de Victor Guillet. Avec Rapture, Betraying the Martyr nous tiraille avec force et conviction entre l'enfer et le paradis. C'est puissant, on sent que le groupe commence à avoir une sacrée expérience, et en plus l'album paraît extrêmement sincère. Je pense que Betraying the Martyr pourrait cette fois bien gagner sa place parmi les poids lourds de la scène metalcore internationale, et je dirais que Parkway Drive et Bring Me the Horizon ont qu'à bien se tenir. On écoute tout de suite Down de Betraying the Martyr, c'est extrait de l'album Rapture. Story of- les Parisiens de Betraying the Martyrs sur Back FM 106.1 dans l'émission de Check Milode. Vous venez d'écouter le titre Down, extrait de l'album Rapture qui paraît aujourd'hui, le nouvel opus de Betraying the Martyrs qui continue eh bien son évolution et qui est de plus en plus énorme, qui se s'ouvre une très belle place parmi maintenant je pense les grands noms de la scène metalcore internationale. Et c'est assez marrant parce que Betraying the Martyrs jusqu'à présent, ils ont connu plus de succès à l'étranger qu'en France, comme quoi nul n'est prophète en son pays. J'espère que ça va se rattraper. D'ailleurs, je pense qu'avec The Resilience, ça a déjà été un peu le cas. Et je leur souhaite aussi tout plein d'ailleurs de succès à l'étranger. Pourquoi pas partir à la conquête des États-Unis maintenant, ce serait très très bien. Deuxième sortie française du jour, dans un style totalement différent, c'est Black Rain, qui revient également ce vendredi 13 septembre avec un nouvel album intitulé Dying Breed. Alors là, on quitte Paris pour la Haute-Savoie, on part du côté d'Annecy, c'est là où est né le groupe en 2006. Il a été créé par le chanteur-guitariste Swan Elion et par le guitariste Max Too. Un line-up qui sera ensuite complété avec l'arrivée du bassiste Mathieu Delaroche et l'arrivée du batteur Kenny Snake. Alors lui va pas rester très longtemps puisque dès 2007, il va être remplacé par Ian Lewis, qui lui ensuite va transmettre ses baguettes à Frank Frusetta, qui est présent donc lui depuis 2010. Alors Black Rain, c'est quoi ? Eh bien, c'est du hard rock à tendance glam metal. Les influences du groupe, elles sont très années 80 et elles portent le nom de Wasp, Guns N' Roses, Rat ou Motley Crue. C'est un groupe qui avait déjà sorti deux albums qui avaient reçu un accueil relativement positif de la part des médias européens. Mais c'est aussi un groupe qui a fait un travail vraiment acharné et qui va finir par décrocher un contrat avec le label allemand SPV, sur lequel sort en 2011 un troisième album qui s'appelle Lethal Dose Off, un album qui va se classer immédiatement premier du top Fnac des ventes métal à l'époque. Alors les choses à ce moment-là, elles vont assez vite s'accélérer pour le jeune groupe savoyard qui va attirer l'attention d'un certain Jack Douglas, qui est bien connu pour avoir travaillé avec des gens comme Aerosmith, Alice Cooper, New York Dolls, Les Who, John Lennon. Et ce monsieur, il va pas hésiter à traverser l'Atlantique pour produire le quatrième album des Frenchies, qui en plus vont réaliser un gros coup médiatique puisqu'ils vont participer quelques mois plus tard à une émission de télé qui s'appelle La France a un incroyable talent, et ils vont atteindre la finale. Alors si l'initiative est très très loin de faire l'unanimité au sein de la communauté métal, eh ben elle va quand même constituer une sacrée promo pour l'album It Begins qui va paraître en 2013, qui va faire le buzz. Cet album, il sera suivi de Release dans 2016, toujours produit par Jack Douglas, mais enregistré cette fois-ci du moins en partie sous le soleil de Californie. Et malheureusement, malgré le buzz que l'album précédent avait fait, eh bien, faute d'une promo suffisante, Release va être loin de connaître le succès escompté, et la sensation Black Rain, elle va assez vite retomber. Mais Swan Elion et sa bande en ont pas pour autant dit leur dernier mot, et les voici de retour avec ce Dying Breed, qui a cette fois été produit par le Suédois Chris Laine, à qui on doit la production de License to Thrill, le deuxième album de Black Rain qui était paru en 2008, et qui en général fait partie des disques préférés des fans du groupe. Alors c'est un album qui a été intégralement composé et enregistré en Suède. C'est aussi un album qui sonne comme un retour aux sources pour le groupe, qui semble mais vraiment s'éclater en faisant le grand écart entre les flamboyantes années 80, âge d'or du glam, et cette fin de décennie 2010 qui lui offre une nouvelle jeunesse finalement à ce glam. C'est un disque, je trouve, Dying Breed, qui est moins formaté que son prédécesseur. C'est aussi un disque qui est plus varié, qui est certainement plus sincère aussi. La sincérité sera beaucoup au programme de cette émission, vous allez l'entendre. C'est un album qui sent la sueur, le cuir et le bourbon, dans lequel les fans vont, je pense, trouver quelques futurs classiques à reprendre à tue-tête durant les concerts. Alors moi perso, j'ai adoré ce côté très 80s du disque, alors jusque dans son artwork. Black Rain, on peut dire qu'il est de retour aux affaires. On va en écouter un extrait tout de suite avec Hellfire, extrait donc de ce nouvel album Dying Breed qui sort aujourd'hui. Yeah. Le groupe savoyard Black Rain, qui s'est depuis installé en Suède donc pour enregistrer ce nouvel album Dying Breed qui paraît aujourd'hui. On vient d'en écouter un extrait qui s'appelle Hellfire, un titre qui est très à la Motley Crue, je trouve, notamment en ce qui concerne le riff de guitare qui pourrait tout à fait être un riff de Mick Mars. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, c'est très années 80, ça tombe bien, en ce moment c'est à la mode, et puis les années 80, il y a quand même eu des choses bien, et c'est cool que de jeunes formations fassent revivre un petit peu cette magie. En tout cas, l'album de Black Rain, il est plutôt réussi aussi, et on sent que le groupe, cette fois-ci, s'éclate, et voilà, il n'y a plus de poids sur leurs épaules, et ils peuvent vraiment s'en donner à cœur joie. C'est à découvrir, puisque c'est déjà dans les bacs. Puisqu'on parlait glam, on va s'intéresser à un groupe qui a débuté en faisant du glam, qui a beaucoup évolué depuis, même si on en retrouve encore quelques petites incursions par-ci, par-là, et qui, ça tombe bien, sort également aujourd'hui un nouvel album. Il s'agit de The 69 Eyes, dont le nouvel opus s'appelle West End. Alors, The 69 Eyes, c'est un groupe qui nous vient de Helsinki, donc en Finlande, qui existe depuis 30 ans, puisqu'il a été fondé en 89, par le chanteur Jyrki 69, les guitaristes Timotimo et Basie, le bassiste Archie et le batteur Lotto, qui a laissé sa place à UC69 depuis très très longtemps. Et ce que je voulais vous dire aussi à propos du groupe, c'est que on les connaît également sous le nom des Vampires d'Helsinki. Alors au départ, The 69 Eyes, c'est un groupe qui est très très glam, avec encore une fois comme influence, on retrouve Motley Crue, on retrouve aussi Hanoi Rocks qui était des potes à Motley Crue. D'ailleurs, un des membres est mort dans un accident de voiture avec le chanteur de Motley Crue. Enfin, lui, il est pas mort, le chanteur de Motley Crue, mais le mec d'Hanoi Rocks, si. Une histoire que vous pouvez retrouver dans The Dirt, le biopic sur Motley Crue. Mais pour en revenir à The 69 Eyes, ils revendiquent pas que Motley Crue et Hanoi Rocks parmi leurs influences, mais aussi Iggy Pop, les Doors, Motorhead, les Sisters of Mercy. Donc ils vont finalement faire évoluer leur musique vers un style qui va être à la croisée entre le hard rock, le punk et le gothique. Figurant aujourd'hui parmi les groupes qui vendent le plus de disques en Finlande, The 69 Eyes, qui bénéficie également d'une belle popularité à travers le monde, a néanmoins mis quelques années à s'imposer, puisque leur premier album, Bump and Grind, sort en 92, donc 3 ans après leur formation. Ils vont ensuite entamer une collaboration avec Timo Tolki de Stratovarius, qui va produire les 2 albums suivants, c'est-à-dire Savage Garden en 95 et Wrap Your Trouble in Dreams en 97, sur lequel apparaît d'ailleurs le chanteur Ville Valo du groupe IM, qui appartient à la même scène metal gothique d'Helsinki que The 69 Eyes. Et d'ailleurs, Ville Valo va ensuite régulièrement participer aux albums du Combo, qui va voir sa carrière prendre un nouveau tournant, et bien lors du passage à l'an 2000, puisqu'il va vraiment falloir attendre ce moment-là pour que leur succès commercial commence. Ça va être avec la sortie de l'album Blessed Me, dont le single Brandon Lee va passer en boucle sur les radios allemandes et finlandaises. Et du coup, les albums suivants, ça va être des cartons dans ces mêmes pays. À ce jour, The 69 Eyes est à la tête d'une très belle discographie composée de 12 albums qui, en Finlande, ont tous été, je crois, au moins disques d'or. C'est assez ahurissant de voir ce qu'ils peuvent vendre dans leur pays. Et puis aussi en Allemagne, dans quelques pays comme ça, au nord de l'Europe. C'est un groupe qui a un très 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 gros succès. Alors il est un petit peu connu ailleurs, mais c'est vraiment là-bas que ça se passe. Et justement, ce nouvel album, c'est West End, qui paraît aujourd'hui. Alors, quoi de mieux que pour célébrer les 30 ans du groupe qu'une nouvelle galette sonore bien sombre et bien gothique qui nous plonge une fois encore dans l'univers horrifique qu'affectionne ces fameux vampires d'Helsinki, qui malgré tout aborde à travers ce prisme une problématique bien concrète qui est de savoir ce qu'il va advenir quand le monde occidental va s'écrouler. Alors ça, pour avoir la réponse, moi je rentrerai pas dans les détails, faut écouter l'album. Maintenant, musicalement parlant, rien de nouveau sous le soleil finlandais, c'est sa bonne vieille recette qui consiste en un savant mélange de heavy, de hard rock, de punk servi à la sauce rock gothique qu'a utilisé The 69 Eyes pour cuisiner les 11 compos de ce nouvel album qui contient d'ailleurs d'excellents titres et puis d'autres qui sont moins impérissables. Alors parmi les bonnes surprises de cet album, on trouve 2 featuring. Il y en a un avec l'inénarrable Danny Fields des Cradle of Filth qui avec sa voix suraiguë crée un contraste des plus surprenants avec la voix ultra grave et ultra chaude de Jyrki 69. Et puis il y a un second featuring avec l'américain Wednesday 13 qui bah finalement évolue un peu dans cette même sphère horror punk que The 69 Eyes, donc c'est assez juste en fait qu'ils aient fait quelque chose ensemble. Mais bah les fidèles de l'émission l'auront certainement deviné, le morceau que j'ai choisi de vous diffuser c'est celui qui est en featuring avec Dani, qui fait partie de mes idoles, qu'on va donc écouter tout de suite, un morceau qui s'intitule Two Horns Up, extrait de l'album West End The 69 Eyes, un album plutôt pas mal, mais aurait pu faire mieux quand même. C'est parti. Up, un extrait du nouvel album de The 69 Eyes dans l'émission Check Me Out sur Back FM. C'était en featuring avec monsieur Danny Fields des Cradle Fields. The 69 Eyes qui nous sort un album plutôt agréable qui s'appelle West End. Alors il y a des morceaux moins bien hein, que celui-ci, mais il y a quelques petites pièces vraiment sympathiques. Ce morceau par exemple, il va rejoindre immédiatement ma playlist. avec quelques autres, dont Cheyenne par exemple, ou un autre, je crois, qui s'appelle Black Orchids, qui est aussi très très bien. Bon, voilà, après, il y a des trucs qui sont un peu plus, on va dire, passables. Mais bon, c'est quand même pas trop mal dans l'ensemble. Ça s'appelle West End, et c'est disponible depuis aujourd'hui. D'ailleurs, The 69 Eyes, on les retrouvera en toute fin d'émission dans la rubrique Sortez Cover. Voilà, je vous l'annonce. On va en Allemagne maintenant, du côté de Stuttgart, avec le groupe Sinner, qui sort également aujourd'hui un nouvel album, décidément que de nouveautés en ce vendredi 13. Un nouvel album qui s'appelle Santa Muerte. Et il y a un petit peu de changement chez Sinner, je vais vous expliquer tout ça. Mais avant, juste, je vais vous rappeler que c'est un groupe qui est très très ancien, puisqu'il a été formé en 1982 par le chanteur-bassiste Matt Sinner, qui sévit également depuis 97 au sein du groupe Primal Fear. Alors on peut souligner que Matt Sinner est le seul membre permanent de la formation, qui a vu depuis ses débuts défiler un nombre assez impressionnant de musiciens. Alors Sinner, c'est quoi ? Bon, je vous ai dit que c'était allemand, alors vous vous êtes peut-être dit que c'était certainement du heavy metal. Eh bien, vous avez raison, c'est du heavy metal et du hard rock, hein, tout simplement, dans ce qu'il y a de plus traditionnel. Depuis 37 ans, Matt Sinner a sorti avec son groupe Sinner pas loin d'une vingtaine d'albums studio, tous animés par cette passion intacte du musicien qui a toujours su garder son cap de départ, mais tout en se lançant régulièrement de nouveaux défis qui ont été réussis ou pas. Faut bien avouer que la discographie de Sinner, elle est quand même très inégal. N'empêche que, si Sinner n'a jamais eu un succès commercial spectaculaire, eh bien, il n'a jamais rien lâché. Et je pense qu'il peut aussi compter sur une base de fans assez solide et assez fidèle. Avec Santa Muerte qui paraît aujourd'hui, eh bien, il se lance un nouveau défi, qui est assez osé d'ailleurs, je trouve, puisqu'il a ajouté un second chant permanent, donc présent sur l'intégralité du disque, et c'est un chant féminin en plus, qui est assuré par Giorgia Colleluori, qui est une chanteuse italienne, que Matt a rencontrée en tournée, et dont la voix s'intègre de façon incroyable à la musique de Sinner. Alors la voix de Giorgia Colleluori, c'est une voix très métal, hein, c'est pas du tout une voix lyrique, vous allez entendre ça tout à l'heure dans le morceau qu'on va écouter, et il faut savoir que du coup, eh bien, elle fait désormais officiellement partie du line-up du groupe. Concernant la couleur musicale de Santa Muerte et des 12 titres qu'il compose, eh bien c'est du heavy metal teinté de hard rock un peu festif. C'est pas le disque du siècle, mais ce nouveau Sinner, il est quand même plutôt sympathique et agréable à écouter, ne serait-ce que justement pour la prestation de la nouvelle vocaliste, qui moi m'a vraiment bluffé, je tiens à le dire. Et puis il faut aussi souligner que Matt Sinner, il a invité deux musiciens à partager chacun un titre de ce nouvel opus. Le premier, c'est quelqu'un dont on va parler d'ici quelques minutes, puisque c'est Ricky Warwick, qui fait également partie de Black Star Riders, et ça tombe bien puisqu'on va présenter leur nouvel album tout de suite après, qui fait aussi partie d'ailleurs de Sin Lizzy. Et puis le deuxième musicien invité, c'est Ronnie Romero, qui officie depuis 2015 au sein de Rainbow, car oui, il faut le savoir, le groupe de Richie Blackmore existe encore. On écoute un extrait du nouvel album de Sinner qui s'appelle, je vous le rappelle, Santa Muerte, et le morceau que j'ai choisi s'appelle Last Exit Hell. Tout de suite, Sinner sur Bike FM. Sinner à l'instant avec un extrait de l'album Santa Muerte qui sort aujourd'hui. Le titre que vous venez d'écouter, c'est Last Exit Hell. Nouvelle formule hein, pour le groupe allemand avec désormais au chant Matt Sinner, mais aussi la chanteuse italienne Giorgia Colelluri, à qui je souhaite une longue collaboration avec Sinner parce que c'est vraiment très très chouette. Hein. On parlait il y a quelques instants, justement parce qu'il a participé à ce nouveau Sinner de Ricky Warwick, eh bien le voici de nouveau à l'honneur, puisque est sorti le 6 septembre, on quitte le 13 septembre et ses nombreuses sorties pour revenir un peu en arrière, qui a donc sorti avec Black Star Rider son nouvel album, il y a une semaine, un album qui s'appelle Another State of Grace. Alors faut que je vous explique qui est Black Star Riders, parce que c'est quand même un groupe pas comme les autres. Alors déjà je peux vous dire que c'est un groupe américain, qui a été fondé en 2012, et il a été créé en fait par une partie des membres live du dernier line-up en date de Thin Lizzy. Parce que, bah oui, pour info, Thin Lizzy n'est pas mort avec son emblématique guitariste, pas guitariste, bassiste, n'importe quoi, son emblématiste. Ah, je vais pas y arriver. Je vous avais dit que le rhume allait finir par me rattraper. Son emblématique bassiste Phil Lynott. La preuve, c'est que, bah, il y a des dates de Thin Lizzy qui sont prévues en 2020. Alors évidemment, Lynott, il est plus là, mais il y a toujours des gens qui sont là pour perpétuer et jouer le répertoire, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et parmi eux, eh bien, il y a ceux qui ont créé Black Star Riders. D'ailleurs, dans le groupe, on retrouve un membre historique de Thin Lizzy, puisqu'il y a le guitariste Scott Goran. Et à l'heure actuelle, eh bien, il est entouré du chanteur Ricky Warwick, qui fait partie aussi de The Almighty, du guitariste Christian Martucci de Stone Sour, du bassiste Robbie Crane qui a fait partie de Rat, et du batteur Chad Zeliga qui a fait partie lui de Breaking Benjamin. Alors, vous l'aurez compris, Black Star Riders, c'est pas simplement un groupe hommage à Thin Lizzy, c'est aussi un groupe intergénérationnel. Même si le groupe nous fait du hard rock, leur but premier, en fait, c'était d'enregistrer des nouvelles compos, mais sans utiliser le nom de Thin Lizzy, bah justement par respect pour Phil Lynott qui est décédé en 86, qui incarne presque à lui seul l'essence et la carrière du mythique groupe. Mais bon, c'est quand même en hommage à lui hein, que le groupe a enregistré All Hell Breaks Loose, un premier album qui était paru en 2013, qui s'inscrit tout à fait dans la continuité de la discographie de Thin Lizzy, et qui va recevoir un accueil largement positif. Avec le deuxième album The Killer Instinct en 2015, Black Star Riders va commencer quand même à se libérer un petit peu du fantôme de Lynott. Il va commencer à trouver un peu son identité, son univers musical, une émancipation qui va se confirmer avec l'album Heavy Fire en 2017, qui va quand même marquer le début du une nouvelle ère pour le groupe qui est désormais plus une simple formation hommage mais une formation à part entière. Et ben justement ce qui est chouette avec Black Star Riders, c'est que c'est pas son nouvel album Another State of Grace qui va démentir cette affirmation, bien au contraire, puisque Black Star Riders il poursuit son évolution vers un hard rock très contemporain, et ben notamment grâce à l'arrivée de deux jeunes musiciens que j'ai cités tout à l'heure hein, le guitariste Christian Martucci et le batteur Chad Zeliga. Et puis il faut savoir que le disque qui a été enregistré à Los Angeles, il a été produit et puis mixé par Jay Ruston, qui est très en vue en ce moment, donc qui propose un son très moderne. Il a signé quelques albums marquants de ces dernières années. Donc vous l'aurez compris, Another State of Grace, c'est un album qui est excellemment réussi, qui est composé de morceaux qui sont à la fois directs, puissants, mélodiques, qui donnent envie quoi, de poursuivre l'écoute de l'album, qui donnent envie d'aller voir aussi ce que ça peut donner en concert. Il s'agit, je pense, de la production la plus mature et la plus personnelle que Black Star Riders ait sortie jusqu'à aujourd'hui. Et on va en écouter un extrait avec l'excellent morceau titre, et ben qui donne tout simplement envie d'aller faire la fête dans un pub irlandais. Vous allez entendre ça. Voici Black Star Riders avec Another State of Grace. C'est le nom de l'album, c'est aussi le nom du titre qu'on écoute immédiatement. It wasn't quite a war. To admit that it was would make it harder to ignore. The strength gave us courage. Whiskey made us fight. Back when blood was thicker. Back when blood. À la vôtre, c'était Black Star Riders à l'instant sur Bike FM dans l'émission Check Me Load, un extrait de l'album Another State of Grace paru il y a une semaine et le titre on vient d'écouter s'appelle également Another State of Grace. Je le rappelle parce que j'ai pas été très clair tout à l'heure, mais Black Star Riders, c'est à l'origine la création de groupe, enfin de membres de l'actuel line-up de Sin Lizzy, puisque Sin Lizzy tourne toujours et ses musiciens eh bien ont voulu enregistrer de nouvelles compos, mais pour finalement refaire ce qui avait été déjà fait, et puis surtout par respect pour la mémoire de Phil Lynott, ils ont décidé de changer de nom et de pas tout simplement s'appeler Sin Lizzy, et c'est une très bonne chose puisque du coup ils ont pu prendre vraiment leur envol et puis devenir un groupe à part entière, tout en continuant d'ailleurs pour certains à tourner pour Sin Lizzy, et c'est très très bien. Il y a eu un album un peu moins bien, mais en règle générale la discographie de Black Star Riders c'est plutôt béton. On retourne en Finlande puisqu'on y était tout à l'heure, on va d'ailleurs y rester jusqu'à la fin de l'émission et on va aller retrouver Tarja Turunen qui a sorti son nouvel album le 30 août. Alors Tarja Turunen, je voulais vous en parler la semaine dernière et puis j'avais pas eu le temps, donc ça n'était que partie remise puisque je vais vous présenter son nouvel album aujourd'hui. Tarja, elle nous vient de Kiti en Finlande et elle a commencé officiellement sa carrière en 96 quand elle a été recrutée par un certain Tuomas Holopainen pour devenir la frontwoman du groupe qu'il était en train de créer, un groupe qui s'appelle Nightwish. Alors, la chanteuse de formation lyrique va d'ailleurs largement contribuer au succès interplanétaire de Nightwish, avant de se faire limoger en 2005 à la fin d'un concert qui a été donné à Helsinki, un concert qui en plus ensuite est sorti en CD-DVD live sous le nom de End of an Era, c'est-à-dire que vous pouvez l'écouter ce concert, le voir aussi, hein, et puis vous dire que tout de suite après, elle a été foutue dehors, et à ce moment-là, en plus, elle le savait pas. Ça a dû être un sacré choc, et je pense qu'ils ont fait une grosse erreur à l'époque. Mais bon, peu importe, après, les histoires de groupe ne nous regardent pas. En tout cas, Tarja Turunen, elle donne dans le métal symphonique. C'est un des fers de lance de ce qu'on appelle, assez vulgairement d'ailleurs, le métal symphonique à chanteuse. Comme je vous disais, c'est une chanteuse lyrique, mais pour préciser, c'est une soprano dont la voix couvre pas moins de 3 octaves, et ça, c'est assez impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait depuis son départ de Nightwish ? Eh bien, tout simplement, elle s'est lancée dans une carrière solo, et elle est plutôt prolifique, puisque sa discographie compte 5 album studio, mais aussi 4 EP, 5 live, un album classique et 2 albums de Noël, sans compter ses nombreuses collaborations avec plein de groupes et artistes. Alors par exemple, elle a chanté en featuring avec Scorpion, avec Doro, avec Within Temptation, et si vous souhaitez découvrir le travail de Tarja depuis qu'elle évolue en solo, moi je vous conseille de commencer par l'album Colors in the Dark, qui était sorti en 2013, que j'avais trouvé particulièrement réussi. Réussi, son nouvel album l'est aussi d'ailleurs, il s'appelle In the Row, ça je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, il est paru donc il y a 15 jours. Alors c'est un album qui est peut-être plus sombre que les précédents et qui se distingue également par des morceaux qui sont plus directs, avec même une espèce de brutalité qui est assez inattendue finalement chez la douce Tarja. C'est par exemple le cas sur le titre d'ouverture. Alors oui, mais alors il faut savoir qu'il est chanté en featuring avec Björn Strid de Soilwork. Ça explique peut-être cela. Strid, c'est pas le seul invité de Tarja sur cet album, puisqu'elle partage également un titre en duo avec l'italienne Cristina Scabbia de la Lacuna Coil, et puis un autre avec Tommy Karevich de Kaamelott. D'ailleurs, il a un peu du mal à être au niveau de Tarja. Je trouve qu'il a il est un petit peu en dessous dessus, mais bon, voilà, après c'est compliqué. Hein. En ce qui concerne justement plus particulièrement la prestation de Tarja, ben elle est à la hauteur de sa réputation, c'est-à-dire impeccable. La chanteuse maîtrise sa voix à la perfection, ça on le savait déjà depuis longtemps. Donc voilà, j'ai rien de plus à vous dire. On va donc écouter sans plus tarder un extrait de l'album In the Row avec le titre que je préfère, c'est aussi le titre d'ouverture, ça s'appelle Dead Promises et c'est le fameux featuring avec Bjorn Strid. Tout de suite, Tarja sur Back FM. C'était Taria à l'instant avec Dead Promises, un extrait de son nouvel album In The Row paru toute fin août. Taria qui nous signe un très bel album que bah, je vous conseille d'aller découvrir si vous l'avez aimé, notamment à l'époque de Nightwish. C'est plutôt pas mal et moi je trouve qu'en studio, bon bah c'est pas toujours... j'aime pas toujours ce qu'elle fait, mais là en l'occurrence, bravo. Et ben ça y est, je crois qu'on a fait le tour des nouveautés la semaine prochaine et on va passer directement à la rubrique Sortez Cover. Alors tout à l'heure je vous ai présenté le nouvel album de The 69 Eyes, du coup comme c'est un groupe que j'ai finalement assez peu diffusé dans cette émission, j'ai eu envie de les mettre également à l'honneur bah, de cette rubrique Sortez Cover en vous proposant d'écouter leur version d'un tube pop rock des années 80 puisqu'il s'agit de Call Me de Blondie que The 69 Eyes avait revisité en 1997 dans une version un petit peu plus féroce. Alors Blondie, c'est donc un groupe américain qui est né à New York dans les années 70, qui est mené par la charismatique Debbie Harris et qui est un pionnier du punk pop mais aussi de la scène New Wave. Le groupe va connaître un succès absolument considérable entre 76 et 82, année où ils se séparent, et ses plus gros hits ont pour titre Heart of Glass, Atomic, One Way or Another et bien évidemment Call Me. À noter que le groupe s'est reformé en 97, qu'il a été intronisé au Rock'n'Roll of Fame en 2006 et que son dernier album en date, il est tout récent puisqu'il est paru en 2017. Mais revenons au titre Call Me. Donc, il paraît en 45 tours le 1er février 1980 et il est en fait extrait de la bande originale du film American Gigolo qui sort en salle le même jour. D'ailleurs, la chanson Call Me, c'est le fruit d'une collaboration entre Blondie et Giorgio Moroder, célèbre auteur-compositeur italien qui a travaillé avec un nombre assez incalculable d'artistes. Mais qui s'est également illustré en tant que compositeur pour le cinéma. On lui doit par exemple la bande originale de Scarface, de L'Histoire sans fin, vous voyez on en parlait tout à l'heure, on y revient, de Midnight Express aussi, et donc voilà, de American Gigolo. Concernant les paroles qui sont signées Debbie Harry, elles sont écrites du point de vue du personnage principal du film, donc dans American Gigolo, le personnage principal c'est un homme qui se prostitue, et elles sont chantées en anglais. Mais si on tend bien l'oreille, eh ben on entend également un petit peu d'italien et un petit peu de français. La chanson va connaître rapidement un gigantesque succès à travers le monde. Elle va se classer première des charts aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, trois pays où elle sera certifiée respectivement disque d'or, disque d'argent et disque de platine. Elle figure d'ailleurs dans la liste des 500 meilleures chansons de tous les temps établies par le magazine Rolling Stone. Et il est pas rare qu'on l'entende à la télévision, alors dans des séries, dans des publicités, un petit peu au cinéma aussi. Quant au nombre d'artistes ou de groupes qui l'ont reprise, eh ben, ce serait bien trop long de vous en faire la liste. De toute façon, la reprise qui nous intéresse, c'est celle de The 69 Eyes, nos vampires d'Helsinki qui l'ont visité sur Wrap Your Troubles in Dream, leur troisième album qui est paru en 97, qui avait été produit par Timo Tolki de Stratovarius. Et il faut savoir qu'elle est interprétée en featuring avec Ville et Valo du groupe Im, hein, je l'ai aussi un petit peu évoqué tout à l'heure, qui collabore régulièrement avec The 69 Eyes. D'ailleurs, Im, je pense que je vous proposerai d'ici peu une petite cover de ce groupe-là, parce que j'en ai une aussi des années 80 qui est pas mal du tout. Allez, il est temps pour moi de vous saluer, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles aventures métal. Voici Call Me de Blondie, revue et corrigée par The 69 Eyes. Très bon week-end à vous, salut à tous!